Le livre s'intitule « Les revenants ». Ils étaient partis faire le djihad, ils sont de retour en France. On parle ici de jeunes Français radicalisés qui sont devenus des combattants au sein de l'État islamique. Des centaines donc de ces jeunes Français djihadistes ont été tués au combat, mais des centaines s'en sont sortis vivants et ils sont revenus en France, où notre invité David Thompson les a longuement interviewés. David Thompson, bonjour.
Bonjour.
Si vous deviez nous résumer, mettons, la personnalité type du jeune djihadiste ou de la jeune djihadiste.
L'un des objectifs, c'était justement ça, de ce livre, savoir à qui on avait affaire. Et la question que je me suis dit, c'est comment faire pour savoir à qui on a affaire. Et la chose la plus simple, c'était de leur poser la question. Qui êtes-vous, etc. Comment êtes-vous devenu djihadiste? L'idée, c'était ça. L'idée aussi, c'était de savoir comment, dans quel état d'esprit, rentrent ces jeunes de Syrie après leur expérience au sein de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Et l'enseignement général de ces 2 ans et demi d'entretien avec ces une vingtaine de jeunes qui s'expriment dans ce livre, hommes et femmes. L'enseignement général, c'est que ces gens reviennent de Syrie déçus pour la plupart d'entre eux de leur expérience, mais certainement pas déçus de l'idéologie.
Donc ça veut dire quoi, ça, être fortement ancré dans l'idéologie djihadiste? Ça veut dire qu'on voit le reste du monde comme des mécréants, que le concitoyen français qu'on côtoie au quotidien est quelqu'un qui ne mérite pas de vivre ou qui n'a pas la même valeur que moi?
Oui, c'est à peu près ça. C'est la négation de toute forme d'altérité. Toute forme d'altérité, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans ce que eux considèrent comme étant l'islam authentique. C'est-à-dire que finalement, ça fait beaucoup de gens à apostasier, pour reprendre un mot qu'ils aiment beaucoup, c'est-à-dire à sortir de l'islam. Et donc le problème, c'est qu'évidemment, chez eux, sortir de l'islam, ça veut dire peine de mort. Donc vous imaginez le genre de problème que ça peut poser. C'est des gens qui sont ancrés dans l'idéologie djihadiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils considèrent encore que le vrai islam, c'est ça, c'est le combat, c'est de lutter pour imposer cette conception de la religion.
Donc la violence est légitime dans cette conception-là?
Non seulement la violence, elle est légitime, mais elle est prescrite par la religion. C'est plus que... C'est un ordre. Vous devez combattre. Donc, si vous voulez, c'est...
Et vous devez tuer au nom de vos convictions religieuses?
Le combat passe par...
Par la mort.
Par la mort. Donc, si vous voulez... Et c'est en ça aussi, en France, il y a eu une dimension qui a été assez... Qui est tabou dans le débat public quand on parle de djihadisme, c'est la dimension religieuse, la part de religiosité dans cet engagement. Si vous voulez... Dans le débat public, en France, on a tendance à évacuer immédiatement cette question en disant « on a affaire à des fous
».
Uniquement, à psychiatriser cette question-là. Si vous voulez, psychiatriser cette question, ça arrange tout le monde dans le débat politique. Ça permet d'éviter d'avoir un débat, d'abord sur la part de religiosité, et de dire ce fameux « ça n'a rien à voir avec l'islam ». Mais en disant ça, il faut évidemment se garder de toute essentialisation, c'est de la religion musulmane, c'est vraiment ça, c'est important. Et puis ça permet aussi d'éviter...
Il faut dire que c'est pas la nature profonde de l'islam, c'est une interprétation.
Les djihadistes se fondent sur des textes religieux de la tradition scripturaire musulmane sunnite, qu'ils n'inventent pas mais qui existent. Donc ils n'inventent rien, les djihadistes. Ils font simplement une interprétation littéraliste de certains versets du Coran, de certains hadiths de la Sunna. Et en fait, ces versets, si vous voulez, alors que 99% des autres musulmans vont dire, il faut les replacer dans le contexte qui est celui des premiers temps de l'islam, des guerres des premiers temps de l'islam, de l'époque du prophète. Ils n'ont plus d'applicabilité aujourd'hui. Les djihadistes, eux, vont dire... Si vous faites cela, vous sortez de l'islam. Et ils utilisent justement cela pour disqualifier les autres musulmans qui cherchent à donner une portée uniquement symbolique à ces textes-là. Et puis, le fait de dire « on a affaire qu'à des fous », si vous voulez, ça permet aussi le corollaire, pour un responsable politique français, ça permet de dire « mais si ce sont des fous, ça veut dire qu'on peut les guérir, donc on peut les déradicaliser ». Et ça évite d'aborder les questions les plus sensibles, et ça fait croire, si vous voulez, à la population, à l'opinion publique, qu'il y a une solution.
Et à votre avis, est-ce qu'il y en a une?
Alors, moi, dans ce livre, j'ai mené des entretiens pendant 1 an et demi.
Comment vous les avez trouvés, soit dit en passant? On va revenir à la question, mais comment vous les avez trouvés? Parce qu'ils ne se promènent pas avec un panneau là, sur eux. Là,
alors, à l'époque où je les ai rencontrés, ils se promenaient avec un panneau sur eux. C'était un contexte qui était totalement différent. Pour moi, tout commence en Tunisie, dans les semaines qui suivent la révolution. On est dans un contexte, je suis correspondant pour Radio France Internationale, on est dans un contexte d'instabilité post-révolutionnaire, des manifestations tous les jours. On est encore dans cette situation de chaos. Et dans les pays arabes, qui d'autres que les djihadistes savent tirer parti au mieux de ce chaos, en se substituant progressivement à l'autorité publique lorsqu'elle est défaillante, les djihadistes savent le faire mieux que personne. Et en fait, j'ai été témoin de cette situation en Tunisie, puisque la Tunisie, c'est le pays qui est le plus touché au monde par ce phénomène. Et donc, j'ai commencé à travailler. C'est comme si je n'avais pas eu le choix que de travailler là-dessus en tant que correspondant, puisque ça se passait sous mes yeux. Ces gens sont partis en Syrie ensuite. Et ils ont une trajectoire importante, ils ont contribué à la création de ce qui est devenu ensuite l'État islamique en Irak et au Levant, puis l'État islamique tout court. Des Français sont passés par la Tunisie également. Voilà comment ça s'est passé pour moi.
Et donc vous avez gardé un lien, un contact avec certains d'entre eux.
J'ai jamais cessé de garder le contact avec tout ce petit monde.
Alors lorsqu'ils reviennent, vous les retrouvez.
C'est ça.
Et vous faites de longues entrevues.
Et je les suis pendant le second livre. Il y a un premier livre qui s'appelle « Les Français djihadistes », paru en mars 2014.
Qui a été un grand succès, d'ailleurs.
Qui a été un succès, mais à l'époque, on s'était moqué de moi sur les plateaux de télévision, parce que j'expliquais que dans ce livre, je faisais des entretiens avec des gens qui étaient du groupe qui est devenu le noyau dur de ce qui était ensuite responsable des attentats du 13 novembre 2015 en France.
Bataclan et tout le reste.
Ouais. Voilà. Et là, on est...
Pourquoi on se moquait de vous ?
Ce livre sort en mars 2014. On est à un an avant les attentats.
On dit quoi ? On dit que vous êtes alarmiste, c'est ça ?
On dit que je suis alarmiste, on dit que je joue sur les peurs, on dit que je risque de faire monter les populismes et des politiques de répression contre les musulmans.
Ah,
oui. Et surtout, on me dit que je suis dans le fantasme. Alors que, parce que je dis qu'il va y avoir des attentats en France, pour avoir mené depuis 2 ans des entretiens avec ceux qui les ont pensés, qui les ont annoncés, si vous voulez, presque, dans ce premier livre.
Qui les ont fantasmés, c'est ça.
Non, enfin, en tout cas, les djihadistes que j'ai interviewés pour le premier livre étaient très clairs sur leurs intentions. Et ces gens-là font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Voilà.
Alors revenons à la question, est-ce qu'il y a une solution ?
Alors, ce qui est certain, à mon sens, c'est que ce qu'on appelle la déradicalisation d'État ou la déradicalisation institutionnelle, pour moi, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Ceux qui ont fait croire que ça fonctionnait étaient ceux qui en vivaient. Donc, si vous voulez, c'est devenu un business. En France, 3 ans après les premiers programmes, si vous regardez les 3 têtes de pont médiatiques qui ont été mises en avant dans les médias par le gouvernement sur les questions de déradicalisation, le premier est aujourd'hui en prison pour agression sexuelle et exercice illégal de la médecine. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour un psychiatre et qui n'avait aucun diplôme en réalité. La seconde a été condamnée pour détournement de fonds publics parce qu'elle a détourné l'argent public qui lui avait été alloué pour ses problèmes de déradicalisation. Et la troisième est totalement décrédibilisée dans le champ institutionnel français. Pourquoi ? Parce que plusieurs jeunes filles qu'elle avait traînées sur tous les plateaux de télévision en les montrant comme des modèles de sa méthode de déradicalisation... sont ensuite partis en Syrie. Et l'une d'entre elles, justement...
Témoigne
dans mon livre, avant d'être reparti en Syrie, de me menacer de mort par ailleurs depuis la Syrie. C'est une autre histoire. Mais je montre à quel point ces programmes sont absurdes et à quel point il n'y a pas de méthode de déradicalisation.
Mais David Thompson, c'est sans espoir, donc. Espoir. Une fois que tu as été radicalisé, une fois que tu as été djihadiste, il n'y a rien à faire. Et si tu reviens en France...
Il n'y a pas rien à faire. Ce qui s'est passé militairement, en Syrie, en Irak, c'est déjà quelque chose de très important.
De détruire cet État islamique.
L'État islamique a perdu, n'a plus de capacité de propagande aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'est plus en capacité de générer l'engouement qu'il a généré en 2014 en annonçant son califat.
Et en ayant accès à toutes sortes de revenus, de ressources.
Ça, si vous voulez, il faut imaginer qui a été un rêve pour des milliers de jeunes, en grande partie issus des quartiers populaires de 80 pays de la planète.
Dans
le Canada.
Et le slogan, en un mot, c'était quoi ?
Le slogan, c'est « Nous avons créé un État juste, vous vivez dans des pays injustes, nous sommes là pour vous accueillir, nous allons vous venger, nous allons vous donner la capacité de vous venger. » Et de faire tout cela au nom de l'islam, du vrai islam sunnite.
Ouais.
Et il y avait aussi d'autres impensés dont on a moins parlé, la dimension hédoniste de cette émigration djihadiste en Syrie. C'est-à-dire que certains partaient là-bas pour s'amuser, partaient là-bas pour, en plus de la dimension religieuse qu'il faut surtout pas nier, mais c'est-à-dire qu'ils partaient là-bas pour jouir de tout ce dont ils ne pouvaient pas jouir dans leur pays. Tout ce qui n'était pas possible de faire dans leur pays, en France ou ailleurs, il était possible de le faire en Syrie, en Irak.
Comme quoi ?
Avoir des appartements, avoir du pouvoir, avoir un statut social. C'est des gens qui n'étaient rien dans leur pays et qui tout d'un coup deviennent des gens importants parce qu'ils intègrent le groupe qui est au pouvoir. Et ils ont le monopole de la violence symbolique.
Et le monopole de la vérité aussi.
Et de la vérité. Mais on est dans une inversion totale des rapports de domination sociaux.
Vous devenez quelqu'un. On dirait que tu es un loser, tu deviens un gagnant.
Eh bien oui. Donc ça, si vous voulez, c'est très important. C'est très important.
Est-ce que le Canada doit craindre le retour de ses revenants? De ses propres revenants? Parce qu'on en a eu, nous aussi, beaucoup moins qu'en France, mais on en a eu. Ils sont partis. Et pour certains, qui vont revenir ou qui sont déjà revenus.
Alors, évidemment qu'il faut craindre le retour de ces gens-là. Il faut se dire que ces gens sont potentiellement une menace, puisque ces gens reviennent en étant toujours fidèles à l'idéologie djihadiste pour la majorité d'entre eux. Il y a des exceptions, mais ça reste des exceptions. Mais en fait, la menace, elle est déjà là, au-delà même des revenants. Si vous voulez, aujourd'hui en France, et je pense que c'est la même chose au Canada, l'État islamique a réussi à insérer dans le cerveau d'une partie de la jeunesse le logiciel terroriste. Et ça va rester longtemps. Je finis mon livre sur une phrase de la propagande djihadiste qui dit justement ça et qui, hélas, est juste. Cette phrase, c'est après la perte d'une des premières villes de l'État islamique en Syrie. Cette phrase, c'est « Nous avons certes perdu une bataille, mais nous avons créé une génération qui désormais connaît son ennemi. »
Incroyable.
Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que même si l'État islamique a disparu, des gens, aujourd'hui, vont continuer d'avoir la volonté de frapper.
C'est nous l'ennemi. C'est nous l'ennemi, David Thompson.
Je vous le confirme. Je vous le confirme.
Donc, ces djihadistes sont... Est-ce que c'est un raccourci intellectuel que de dire ces djihadistes sont des terroristes potentiels?
Ben, non seulement c'est pas un raccourci, mais pour la plupart d'entre eux, c'est un terme qu'ils revendiquent. J'ai plusieurs djihadistes, moi, qui m'ont dit « Nam, je suis un terroriste. » Oui, je suis un terroriste. Ils se réfèrent à un verset du Coran qui dit « terroriser les ennemis d'Allah ». Donc, si vous voulez, pour eux, le mot « terroriste », c'est pas une insulte. Pour une partie d'entre eux.
Est-ce que je peux vous demander, en terminant, est-ce que vous avez été menacé? Parce que vous avez pris quand même certains risques pour écrire ces deux livres-là.
Ben, je vis sous protection policière depuis plus d'un an en France. Donc,
vous avez des policiers toujours avec vous quand vous êtes en France?
24 heures sur 24.
Vraiment?
Donc, c'est une façon de répondre à votre question.
Et qui vous menace?
Je ne peux pas vraiment parler de rentrer dans les détails, mais les gens sur lesquels j'ai travaillé, aujourd'hui, veulent me tuer.
Des gens qui témoignent dans votre livre? Ou ceux qui sont au-dessus?
Leur organisation.
Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit dans ce livre qui les...
Si vous voulez, c'est des gens qui n'apprécient pas forcément que... On les montre tels qu'ils sont. Ils préféreraient qu'on les montre uniquement au travers de la propagande que leur branche médiatique diffuse. C'est pas ce que je fais. Moi, ce livre, qui est uniquement écrit sur des entretiens avec certains de leurs membres, montre ces gens-là sous leur vrai visage, tels qu'ils sont. Et ça, c'est pas quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Par ailleurs, ils pensent qu'un journaliste qui a travaillé 6 ans intégralement à ne faire que ça, à sacrifier sa vie sociale, à tout sacrifier pour faire ce travail, ils ont la conviction que c'est quelqu'un qui forcément travaille pour les services de renseignement. Mmh. Même si j'ai toujours maintenu une étanchéité totale entre mon travail de journaliste et l'univers du renseignement et l'univers de la justice et de la police. De toute façon, si vous menez le travail que j'ai mené, que vous ne vous retrouvez pas dans la situation sécuritaire dans laquelle je suis actuellement, c'est qu'il y a un problème dans mon travail de journaliste.
Vous saviez ce que vous faisiez?
Oui.
Et vous allez continuer?
Non, j'arrête.
C'est vrai?
Oui. J'ai déjà arrêté depuis le printemps dernier. J'ai décidé de changer de thématique de travail. Je pense que avant les menaces, j'avais déjà décidé de toute façon d'arrêter parce que je considérais que j'avais fait le tour de la question journalistiquement. J'avais épuisé le sujet journalistiquement. Je ne vois pas ce que je pouvais écrire, faire de plus. Donc voilà. Et donc il est temps. Je pense que journalistiquement, c'est très sain.
Oui.
Je pense que ce serait pareil pour le monde académique au bout de 6 ans, de changer de thématique et de passer à autre chose. Ça peut être violent journalistiquement parce que c'est pas évident, mais il faut le faire.
Mais afin que ce travail-là ne soit pas en vain, je vous rappelle le livre « Les revenants, ils étaient partis faire le djihad, ils sont de retour en France ». C'est signé David Thompson, c'est aux éditions Seuil Les Jours. Merci beaucoup David Thompson.
Merci à vous.